carrefour des arts. On retrouve Christa Leuc.
Les Fragonards de Besançon. Un superbe livre d'art par Pierre Rosenberg de l'Académie française, qui est aujourd'hui notre invité. Monsieur Pierre Rosenberg, bonjour.
Bonjour.
Une nouvelle fois, Carrefour des Arts a le plaisir de vous recevoir. Et dans cet ouvrage, vous avez étudié la totalité de ce fonds bisontin. Et je précise pour nos amis internautes que les bisontins sont tout simplement les habitants de Besançon.
C'est bien vrai.
Et ce fonds, donc bisontin, ne comporte pas moins de 123 dessins, un pastel et 3 peintures. Attribution confirmée et rejetée confondues. Des œuvres pour lesquelles vous rédigez un commentaire, vous proposez une date d'exécution et vous établissez une chronologie. Je crois qu'on ne peut mieux aborder l'œuvre de Fragonard, cet artiste, je crois, le plus aimé du XVIIIe siècle. Et dans la bibliographie, nous trouvons près d'une cinquantaine de contributions sous votre signature. Des livres, des articles, des catalogues en plusieurs langues dédiés principalement à Jean-Honoré Fragonard. Je crois que c'est votre préféré, Pierre Rosenberg, non ?
Non, c'est pas mon préféré. Il y a une exposition à Besançon qui présente les plus beaux Fragonards de Besançon, tableaux et dessins. Et ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai fait, c'est un inventaire. C'est-à-dire que j'ai étudié l'ensemble de ce fonds d'œuvres de Fragonard qui, dans le domaine du dessin, est unique. Je veux dire que le Louvre même ne peut pas rivaliser avec Besançon pour ce qui est de Fragonard, pour ce qui est des dessins de Fragonard. C'est le fonds le plus important en France et peut-être même au monde d'œuvres de Fragonard, et ce que j'ai voulu, c'est l'étudier dans son intégralité. Voilà, c'est mon peintre favori, sûrement pas. J'aime beaucoup l'œuvre de Fragonard parce que j'aime pas beaucoup l'homme Fragonard, mais on y reviendra sans doute. J'aime beaucoup l'œuvre de Fragonard, mais c'est pas mes favoris. Mais mes favoris, c'est Un jour sur deux Chardin et un autre jour sur deux Poussin, selon mon humeur et selon les jours de pluie ou de soleil. J'aime beaucoup Fragonard, c'est un artiste merveilleux, c'est surtout parce qu'il est le symbole de quelque chose qui aujourd'hui manque tant à la peinture et qu'on a un petit peu oublié quand on regarde l'œuvre de Fragonard, c'est la joie, Fragonard. Et je crois qu'un peintre qui donne de la joie à ceux qui les regardent ses œuvres mérite qu'on l'admire et qu'on l'aime.
Oui. Vous dites dans votre préface que Fragonard ne semble plus être tout à fait en vogue aujourd'hui.
C'est vrai. Alors, vous savez, la carrière de Fragonard elle-même a été courte. Il est né en 1732 à Grasse, il est monté sur Paris, il a eu le Grand Prix de Rome jeune, il est parti pour l'Italie, premier voyage en Italie. Il est revenu et il a fait sensation en 1765 par un tableau qui est au Louvre, un immense tableau qui s'appelle Corésus et Caliro. Et on a cru que cette fois-ci, la France tenait le grand peintre d'histoire qu'on espérait avoir à ce moment-là et qui manquait au pays. Et puis, il s'est lancé dans un autre genre de peinture tout à fait différent, des scènes de genre, des tableaux un peu polissons, un peu lestes, toutes sortes d'autres tableaux. Et il a gagné un peu d'argent avec ce genre de tableaux qui étaient plus faciles d'accès que les grands tableaux d'histoire. Mais très vite, il est tombé dans l'oubli. Et cet oubli a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et il a fallu quelques grands collectionneurs, les Goncourt bien sûr, mais surtout quelques grands collectionneurs comme Lacaze, qui sera bientôt célébré au Louvre par une grande exposition, pour que vraiment il redevienne à la mode. Ou qu'il devienne à la mode, qu'il redevienne à la mode. Et cette mode a été fulgurante. On l'a adoré entre 1890 et 1940, sans limite, on le considérait comme un effet. Et puis, subitement, la mode a tourné pour une seconde fois. Et on a préféré une peinture d'abord plus intellectuelle, je pense à David, mais aussi une peinture plus grave, moins joyeuse, plus abstraite, plus intellectuelle, plus triste, plus dramatique. Un peu la peinture qui serait le reflet de notre époque, qui n'est pas une époque très gai, si l'on veut. Et au fond, aujourd'hui, par le fait que l'on aime une peinture dramatique, expressionniste, violente, au fond, tout cet amour que l'on porte à ce type de tableau a nuit à Fragonard, qui est un peu le contraire de cela.
Oui, qui exprime un sentiment de bonheur, comme vous disiez tout à l'heure,
absolument.
De joie et
d'allégresse.
Couleurs et d'allégresse.
Ce sont les jeunes qui sont représentés. Et puis, les sujets sont toujours un peu agréables à regarder. Il y a beaucoup de dames nues, etc. etc. Mais tout ça, ça n'est plus du tout l'idéal artistique. Et ça se reflète très clairement par le marché. Où Fragonard, bien sûr, on le sent, comme tout le XVIIIe siècle français, n'est plus tout à fait ce que les amateurs, les collectionneurs, même les musées, considèrent comme les priorités de leurs acquisitions.
Oui, justement, cette fluctuation dans la mode des peintres concerne non seulement les peintres, mais je crois également tout le mobilier et la décoration et le style et peut-être même... Il y a une la philosophie d'une certaine époque.
Oui, je ne sais pas ce qu'il en est pour le monde de la philosophie, en effet, ou le monde de la littérature ou de la musique. C'est peut-être pas du tout pareil, mais en tout cas pour la peinture et pour les arts voisins, les arts décoratifs, le 1920, par exemple, a pris le dessus sur le 1760. C'est très net, mais ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des hauts et des bas dans la mode des amateurs, des collectionneurs et des musées, c'est normal.
Oui.
Et moi, j'espère naturellement le retour de Fragonard à la mode, pour une raison toute simple, c'est qu'il donne un tel bonheur, comme vous disiez tout à l'heure, à ceux qui regardent ces tableaux. On oublie tellement le temps dans lequel nous vivons, notre époque, en regardant ces œuvres. On est tellement transporté dans un monde enchanteur, à la fois réaliste et un petit peu de rêve, qu'on ne peut que souhaiter que ce que ces tableaux qui procurent ce genre de sentiments plaisent à nouveau pour que, en effet, les gens puissent s'évader de la réalité quotidienne en regardant les tableaux de Fragonard.
Oui, en effet. Et puis, il y a une énorme virtuosité aussi dans ces tableaux et une luminosité. La joie, on en a parlé, mais vraiment, je trouve que certains tableaux sont vraiment des chefs-d'œuvre dans les détails des feuillages ou dans la lumière et dans la composition générale du tableau. Mais on va peut-être parler
Je voudrais rester sur la virtuosité qui est quand même une chose exceptionnelle.
Oui,
non, mais vous avez raison. La virtuosité, c'est-à-dire qu'avec Fragonard, la peinture franchit un pas. Si vous voulez, celle de Boucher, dont il est quand même l'élève et le continuateur, on ne voit pas un coup de pinceau. C'est une peinture lisse, porcelainée, finie, achevée. Avec Fragonard, c'est le contraire. Il veut qu'on voit sa touche, il veut qu'on voit le coup de pinceau. Et ça, c'est une attitude extraordinairement moderne qui sera reprise, évidemment, par les peintres impressionnistes. Il n'est pas le premier. Avant lui, Frans Hals ou même Rembrandt, si on veut, avaient eux aussi peint très libre avec un coup de pinceau. Mais chez lui, ça va plus loin. C'est le coup de pinceau... Il a quasiment une attitude de peintre abstrait, tellement le sujet est gommé. Le sujet, bien sûr, il est présent, il ne faut pas non plus pousser trop loin la comparaison avec la peinture abstraite, mais le coup de pinceau fait partie du sujet. Et il y a un sujet qu'on reconnaît, des baigneuses, des Colin Maillard, des hasards de l'escarpolette, pour prendre des titres célèbres. Bien sûr, on reconnaît les sujets, et les sujets sont importants, mais le coup de pinceau avec lequel ces sujets sont traités font partie, les coups de pinceau font partie du tableau. Et c'est une extraordinaire virtuosité, et une rapidité et une espèce de spontanéité qui est absolument extraordinaire et nouvelle et qui, bien sûr, ouvre une voie vers le 19e siècle. Ce n'est pas la seule voie vers le 19e siècle, c'est une voie. Et au fond, je suis sûr que cette réhabilitation de Fragonard dans la seconde moitié du 19e siècle tient aussi avec l'apparition sur le devant de la scène de peintres dont l'exécution était comparable à celle de Fragonard, dont le coup de pinceau était comparable à celui de Fragonard.
Oui. Ah, oh, quelle merveille de le redécouvrir. J'invite vraiment tous nos auditeurs à voir encore cette belle exposition parce que je sais que je n'ai pas dit au début, c'est que votre superbe livre est également un catalogue d'une exposition qui se tient encore actuellement à Besançon,
tout
donc
à fait,
au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie.
Un grand musée où il y a de grands chefs-d'œuvre, dans une ville où il y a beaucoup de chefs-d'œuvre aussi, dans les églises. Enfin, il y a parmi les plus grands tableaux de l'histoire de la peinture sont à Besançon. Enfin,
oui.
Bronzino, Fra Bartolomeo... Donc des grands maîtres de la Renaissance italienne sont représentés soit au musée, soit à la cathédrale de Besançon.
Oui.
Donc le voyage vaut la peine.
Oui. Et puis c'est le musée, je crois, le plus ancien de France.
Oui, c'est le premier musée de France. Et il y a naturellement des œuvres célébrissimes, de Courbet par exemple, ou naturellement ce chef-d'œuvre ultime de Giovanni Bellini, L'ivresse de Noé, qui est un des grands tableaux de l'histoire de la peinture, incontestablement.
Alors si vous voulez bien, Pierre Rosenberg, revenons sur le parcours de Jean-Honoré Fragonard, qui est donc né à Grasse, un 4 avril 1732, et décédé à Paris le 22 août 1806.
Alors, il est mort en effet en 1806, et j'espérais l'année dernière qu'on le célébrerait, et qu'on ferait des grandes expositions, qu'il y aurait toutes sortes de manifestations. Et j'ai écrit à la mairie de Paris pour proposer qu'on mette sur sa maison mortuaire, qui est à plus ou moins à l'emplacement actuel du Grand Veufour, le restaurant du Grand Veufour, qui est au Palais Royal, comme vous savez, une plaque. Et une plaque pour rappeler que Fragonard était mort en août 1806 à l'emplacement du Grand Veufour. Une plaque sur sa maison, si vous voulez. D'ailleurs, le restaurant Le Grand Veufour le sait très bien. Il sait très bien que Fragonard est mort là. C'était à l'époque un café célèbre. Il est mort, en vérité, c'est une petite anecdote, parce qu'il avait mangé une glace qui était un peu trop fraîche et il a eu une apoplexie qui l'a emporté. Mais
et il habitait le Louvre à l'époque.
Napoléon a voulu chasser du Louvre les artistes qui y habitaient. Il a habité au Louvre, Fragonard, très tôt d'ailleurs, dès 1765, avec sa femme et puis son élève Marguerite Gérard. C'est vrai, mais Napoléon a voulu vider le Louvre de ses occupants, de toutes sortes, il y avait beaucoup d'artistes, bien sûr, pour en faire un musée. En fait, les artistes ont été un peu les victimes des œuvres que Napoléon avait un peu rassemblées au Louvre pendant cette période. Mais en effet, il a longtemps habité au Louvre. En 1806, on n'est plus tout à fait sûr qu'il habitait le Louvre. En fait, il n'y habitait plus. Mais donc, il meurt. J'écris à la mairie de Paris pour leur rappeler que Fragonard est mort à cet emplacement et que je souhaiterais qu'il y ait une plaque qui soit apposée sur sa maison. Et j'ai reçu une belle lettre de la mairie de Paris me disant qu'il fallait que je demande l'autorisation à peu près à une quinzaine d'organismes, des monuments historiques, une liste impressionnante de requêtes à mener à bien. Et la lettre se terminait par une phrase qui m'a quand même un petit peu laissé quoi. Elle me disait, et tout cela, y compris la plaque et la pose de la plaque, sont à vos frais. Alors j'ai renoncé. Et depuis, chaque fois que j'ai l'occasion de parler de Fragonard...
Histoire extraordinaire.
Mais oui, je rappelle cette anecdote dans l'espoir que quelqu'un m'entende et... se scandalise de cet oubli d'une part et d'autre part prenne en charge la dépense d'une plaque que Fragonard, comme vous le savez, mériterait bien.
Oui. Ben, je vous remercie de nous avoir raconté cette histoire qui est vraiment un peu scandaleuse,
Un peu triste. Et ça confirme un peu l'oubli.
Donc il n'y a toujours pas de plaque.
Il n'y a toujours pas de plaque. Et ça confirme un peu ce que nous disions précédemment sur le fait que Fragonard n'a plus la grande gloire qu'il a pu avoir. Parce que s'il avait eu cette grande gloire, la mairie de Paris ne m'aurait pas répondu de la sorte.
Ben écoutez, heureusement que tous les internautes dans le monde entier auront entendu cette chose et peut-être il y aura quelque chose à faire pour cette plaque, espérons-le, grâce à Canal Academy. Merci. Donc, il est né à Grasse en 1732. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il a fait ses cours, son apprentissage d'abord chez Chardin, mais très vite
surtout
chez Boucher.
Oui. Oui, absolument, tout ça est vrai. Puis ensuite, il reçoit à 20 ans le Grand Prix de Rome, qui était là absolument essentiel pour tout jeune artiste. Il passe par ce qu'on appelle l'École royale des élèves protégés, qui est une formation complémentaire. Il part pour Rome en 56. Il arrive à Rome et il traverse une crise extrêmement grave. Parce que Rome, pour tous les artistes au XVIIIe siècle, c'était la Mecque. C'est-à-dire, c'est là que tout se passait. Il y avait l'Antiquité, il y avait Raphaël, il y avait Caravage, il y avait tout ce que vous voulez. Et il arrive et il est très déçu. Et il traverse une véritable crise de dépression. Il n'arrive plus à peindre, il n'arrive plus à dessiner. Il est complètement bloqué. Et il traverse une véritable crise jusqu'à ce que le directeur de l'Académie de France à Rome, alors installé au Palais Mancini, sur le Corso, qui s'appelait Natoire, le prenne en main et lui montre qu'il y a beaucoup de choses à faire à Rome, notamment dessiner les magnifiques paysages des environs de Rome, de Tivoli, de la Villa d'Est. Et il y va en 1760 et il y fait ces merveilleux paysages qui sont d'une des gloires du musée de Besançon. Ces vues de la Villa d'Est qui sont parmi les plus belles sanguines de l'histoire du dessin.
Oui,
je remarque une toute petite chose, la Villa d'Est, elle est merveilleuse. Ce sont des arbres, des grands parasols, tout ça est vert. Et pour peindre ce vert, Fragonard utilise la sanguine, donc il perd en rouge ce qui était vert. Et c'est assez curieux comme...
C'est un recueil absolument stupéfiant, extraordinaire.
C'est le sentiment de la nature, de la chaleur de l'été, du bruissement des arbres, tout y est, c'est absolument merveilleux.
Oui.
Et il quitte Rome, il revient à Paris, il est accompagné par un abbé commendataire qui s'appelle l'abbé de Saint-Nom, et pendant le chemin du retour, il dessine pour l'abbé tout ce qu'il voit, surtout des tableaux, pour l'abbé de Saint-Nom. Il dessine... Et l'abbé de Saint-Nom grave les dessins de Fragonard pour en faire un livre qui ne verra jamais le jour. Mais il avait écrit un journal de voyage qui s'appelle le Panopticon. Et ce journal de voyage, j'ai eu la chance de le retrouver et de le publier. Puis, j'ai déjà fait allusion à son grand prix, enfin à son morceau de réception, Chorésus et Caliroé, qui est un tableau fantastique, très admiré par Diderot. Et ça se passe en 1765. Et il se passe en 1765 deux événements capitaux pour comprendre un peu l'histoire de la peinture française au XVIIIe siècle. Il y avait à l'époque un peintre qui était considéré par l'Europe entière, y compris par Frédéric le Grand de Prusse, par exemple, comme, je cite, ouvrez les guillemets, le plus grand peintre de l'Europe. Il est aujourd'hui un peu oublié, il s'appelait Karl van Loo. C'était un homme merveilleux, mais c'était un peintre qu'aujourd'hui on a un peu oublié, quoi. Mais à l'époque, on le considérait comme le plus grand peintre. Et il meurt en 1765, donc il fallait le remplacer. Et puis, il y avait un espoir de la peinture française, c'était le gendre de Boucher, qui s'appelait Déhé, il était tout jeune, et lui aussi, il meurt en 1765. Donc, la peinture française est doublement décapitée, si j'ose ainsi dire. Et il faut le remplacer. Et tout le monde officiel, les surintendants des bâtiments, tous ceux qui s'intéressent aux arts, les critiques de l'époque, Diderot compris, tout le monde se dit « Ah, ils sont morts !» Mais il y a le jeune Fragonard qui va les remplacer. Et Fragonard les trahit. Fragonard les trahit dans la mesure où, au lieu de continuer à peindre de grandes tartines historiques, des grands tableaux d'histoire, des tableaux de ce genre, il se met à peindre des petites scènes de genre, l'Est, des baigneuses toutes nues, des dames sur leur lit, toutes sortes de tableaux qu'on pourrait considérer comme des polissonneries, mais qui sont en même temps des tableaux très touchants parce que les modèles sont jeunes, ils sont innocents, ils découvrent l'amour, ce sont des adolescents. C'est une peinture à la fois très libre et en rien érotique, si vous voulez. C'est toujours libre, sensuel, mais pas érotique et encore moins pornographique, si vous voulez. C'est un art à la fois très joyeux, très gai, mais en rien trouble. En rien trouble.
C'est au retour d'Italie quand il était à nouveau à Paris.
Oui, nous sommes à Paris, nous sommes en 1767, et ce sont ses grandes années. Et il a à ce moment-là deux grands malheurs dans sa carrière. C'est qu'il reçoit une commande très importante par la Dubarry à Louveciennes, qui était la maison de la Dubarry, la maîtresse de Louis XV. Et cette commande est refusée, parce que dès cette époque, on considérait qu'il n'était plus assez moderne, entre guillemets. Et puis, d'autre part, il se brouille avec une danseuse célébrissime, dont le portrait est au Louvre, par Fragonard, qui s'appelait la Guimard, qui était connue par le nombre de ses amants et qui était aussi connue par la manière dont elle savait les dépouiller de leur fortune. Et là encore, avec la Guimard, il se brouille. Donc, il connaît des grandes perplexités parce que ses brouilles sont dues à ses relations difficiles avec la Guimard et avec la Dubarry, mais sont aussi dues à sa manière de peindre qui, dès cette époque, donc très tôt, est considérée comme dépassée alors que monte déjà en puissance le néoclassicisme. Alors, c'est une deuxième crise, très grave cette fois-ci, deuxième voyage en Italie, avec cette fois-ci un personnage haut en couleur, qui s'appelait Jacques Onésime Bergeret de Grandcourt, qui était un des hommes les plus riches de France, et qui voyage en Italie avec un luxe, mais incroyable, avec Fragonard comme guide, mais qui voyage dans un luxe de berline, de cuisinier, enfin c'est le luxe absolu. Donc très différent du premier voyage, qui était un voyage d'étudiant, si vous voulez, il n'était pas pauvre, mais il était... Et il fait ce voyage, sans doute, comme on dirait aujourd'hui, pour se ressourcer, pour retrouver des forces créatrices, il les trouve à son retour, mais pour peu de temps et très vite. Dès 1785, donc Fragonard est jeune encore, et il a encore 20 ans à vivre, il est oublié. Il tombe dans l'oubli, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Une chute brutale.
Brutale. Brutale, on n'aime plus ses tableaux, on en grave encore quelques-uns, on n'aime plus sa manière de peindre, il essaie par tous les moyens de s'adapter à l'évolution du goût, il peint le verrou, il peint l'adoration des bergers, des tableaux qui sont heureusement
Le verrou.
Le verrou qui est un tableau absolument extraordinaire. Qu'on peut admirer au Louvre. Et il a des malheurs personnels, sa fille Rosalie meurt, et au fond, il tombe dans l'oubli, et il est tiré de l'oubli par la Révolution. C'est-à-dire qu'il devient conservateur au Louvre, il est conservateur au Louvre, et au fond, ce peintre devient fonctionnaire et joue un rôle absolument essentiel dans la création du Louvre, qu'on appelait à l'époque le muséum, où il est chargé de surveiller l'arrivée des tableaux, leur restauration, leur encadrement, toutes sortes de choses. Il est conservateur du Louvre, mais il est oublié comme artiste. Le seul qui continue de l'admirer, c'est David, qui dit deux ou trois fois des phrases célèbres, notamment parce que, en tant que conservateur, il dit de Fragonard qu'il est chargé de conserver les chefs-d'œuvre dont il a, par le passé, contribué à augmenter le nombre. C'est quand même très flatteur.
Oui, absolument.
Par le passé, donc il considère
David,
que tout ça,
qui
c'est...
avait quand même l'œil exercé.
Il avait quand même l'œil. Donc, par le passé, c'est-à-dire qu'il considère que la peinture de Fragonard est complètement passéiste, une page est tournée, mais il la considère comme ayant produite des chefs-d'œuvre.
Comme quoi, les contemporains ne savent pas toujours apprécier la valeur des chefs-d'œuvre. Ouais. Sauf David, quelques-uns. Ouais.
Qui se connaissaient bien parce qu'ils étaient voisins au Louvre. Ils avaient des ateliers voisins au Louvre. Donc, il y avait une famille, ils se côtoyaient tous les jours.
Oui. Écoutez, après cet éclairage sur la vie de Fragonard, je vous propose une courte pause musicale. Par exemple, quelques mouvements de Rameau, qui était aussi son contemporain. Nous reprenons notre entretien avec M. Pierre Rosenberg de l'Académie française. Nous nous entretenons de Jean-Honoré Fragonard et plus particulièrement sur les Fragonards de Besançon. Je précise à cette occasion qu'une exposition est organisée pour célébrer le bicentenaire de sa disparition. Elle a lieu depuis décembre 2006 jusqu'au 2 avril 2007 au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon et s'effectue en collaboration avec la Bibliothèque d'études et de conservation. Alors la question qui s'impose, pourquoi Besançon, Pierre Rosenberg ?
C'est un peu par hasard et j'ai dans mon catalogue, mon inventaire, un peu essayé de mieux comprendre les circonstances de ce hasard. Besançon est la ville natale d'un grand architecte, peu connu, mais un grand architecte, qui s'appelait Pierre-Adrien Paris. Et Pierre-Adrien Paris est allé souvent en Italie et il a constitué une collection de tous les artistes qu'il avait rencontrés en Italie, tous les pensionnaires de l'Académie de France à Rome, d'artistes qu'il avait croisés aussi à Paris. Et il a constitué une collection énorme. Et le hasard a fait que dans cette collection, Fragonard occupe une place absolument exceptionnelle. Il a mis la main sur toutes sortes de dessins de Fragonard. On ne sait pas très bien ceux qu'il a achetés, ceux que Fragonard lui a donnés. On ne sait pas très bien quels étaient les liens qui rapprochaient les deux hommes. On ne sait pas très bien comment la collection s'est constituée, mais le résultat est là. Et cette collection, elle est en effet, comme le disions, elle comporte presque une centaine de dessins de Fragonard de toutes les époques de la carrière de Fragonard. Tous ces dessins ont été ensuite donnés par Pierre-Adrien Paris à sa mort en 1819 au musée de Besançon. Et c'est comme ça que cette collection est à Besançon. Mais elle a été au départ donnée à la bibliothèque, puis une partie est partie au musée. Donc elle est à l'heure actuelle divisée entre la bibliothèque et le musée. Et le travail aussi constitué à la réunir et à essayer de comprendre comment elle était présentée à la bibliothèque, comment Pierre-Adrien Paris lui-même la concevait comme collection et comment le temps l'a traitée. Les dessins ont été hélas trop exposés. La lumière du soleil, la lumière tout court, les a affadis. Et les dessins sont malheureusement pas dans un état parfait, ce qui est navrant. Alors certains ont mieux résisté que d'autres, les sanguines et les pierres noires ont mieux résisté que les plumes et les lavis surtout, mais la collection a souffert malheureusement, et il faut mettre en garde les conservateurs du monde entier sur le fait que les dessins, il ne faut pas les exposer, il faut les laisser en carton, et il faut venir les admirer en carton. On peut les exposer un petit peu, mais le moins possible, et Besançon est la preuve qu'il n'aurait pas fallu les exposer autant.
Oui, aujourd'hui, on sait que c'est très, très, très fragile.
Très fragile. Et il y a des règles très, très fermes établies. Par exemple, à l'heure actuelle, une exposition comme celle de Besançon à l'heure actuelle, aucun dessin n'est éclairé avec une lumière qui dépasse les 50 lux, qui sont la limite maxima pour exposer des dessins. Et parce que les rayons de la lumière brûlent le papier et par conséquent les dessins.
Oui. Et puis, il y a également eu des problèmes d'attribution.
Parce que, bien entendu, il y a eu des problèmes d'attribution.
Ce Pierre-Adrien Paris a signé lui-même allègrement certains dessins de
Il y a eu des problèmes d'attribution. J'ai essayé de les résoudre, certains. Il y a eu des problèmes d'attribution. Je ne suis même pas sûr que Pierre-Adrien Paris lui-même a toujours su distinguer parmi les dessins qu'il avait réunis ceux de Fragonard et ceux, par exemple, d'un contemporain qui s'appelait Vincent. Pour lui, la collection qu'il avait constituée, qui était immense, était une collection pour se distraire, c'était pas ça qui comptait pour lui. Son œuvre d'architecte avait une bien plus grande importance. Et au fond, c'est un peu le hasard, le heureux hasard, qui fait que Besançon a hérité de cet ensemble, je le répète, unique au monde.
Oui, qu'on doit quand même
à cet architecte, qu'on lui doit absolument.
Oui.
Et parce que la ville de Besançon elle-même n'a jamais, hélas, acheté une œuvre de Fragonard. Elle a en plus reçu une autre collection au XIXe siècle, très importante, d'un peintre qui s'appelait Jean Gigoux. Et dans cette collection, il y avait surtout un pastel de Fragonard, qui incontestablement est une pièce tout à fait exceptionnelle, à peu près sans équivalent au monde.
Ce portrait
de sa servante, qui est une œuvre absolument extraordinaire, qui, elle, ne vient pas de Pierre-Adrien Paris, mais qui vient de ce peintre Jean Gigoux.
Et qui est exposé en face d'un autre portrait de Chardin.
Absolument, mais ça c'est une petite coquetterie que je me suis permis.
Oui, qu'on trouve évidemment aussi dans ce magnifique livre de Pierre Rosenberg,
absolument,
dont je répète le titre, Fragonard à Besançon. Mais nous n'avons pas encore terminé, parce que je voudrais quand même faire un éclairage sur ce peintre que nous aimons tant, je dois dire, nous au moins. Fragonard qui demeure un peintre dont l'œuvre a maintenant vraiment traversé deux siècles et gardé toujours toute sa séduction. On aime le Fragonard académique, on aime le Fragonard historique, le Fragonard poétique, le Fragonard, et je mets des guillemets, amoroso, galant, païen, badin, polisson, je crois que ce sont les frères Goncourt qui ont trouvé ces qualificatifs. Alors, quels sont pour vous, Pierre Rosenberg, les mots que vous pourriez mettre pour illustrer ou pour caractériser et aussi pour faire partager les multiples facettes de cette séduction?
Il y a un mot que j'aime beaucoup, il n'est pas de moi, et il est d'un historien d'art italien qui trouvait sa peinture dynamique. Oui. Il y a un effet chez lui, un dynamisme.
Ah oui, ce coup de pinceau dont vous parliez tout à l'heure.
Une espèce de mouvement permanent. Il y a donc ça, cette espèce d'allant permanent, une espèce de peinture complètement gonflée, si vous voulez, et dynamique et en mouvement. Puis il y a une couleur qui est très importante chez Fragonard. C'est le peintre du jaune ou c'est la peintre des jaunes. Il y a toute la variété de jaunes. Il aime le jaune ocre, il aime toute la variété des jaunes, c'est sa couleur. Et il varie sur ces jaunes d'une manière absolument extraordinaire. Et il le fait avec une intelligence du regard, une intelligence de l'œil tout à fait exceptionnelle. Il sait juxtaposer ses jaunes avec d'autres couleurs pour mettre ses jaunes en valeur. Extraordinaire. Ce que j'aime beaucoup chez Fragonard, je l'ai déjà un peu dit, c'est sa liberté. La liberté de l'exécution, mais aussi sa liberté de penser. Il y a chez lui une incontestable volonté de s'affranchir des normes. En fait, son échec à l'académie est dû, bien sûr, à ce qu'il gagnait plus d'argent avec les petits tableaux à sujet leste qu'avec les tableaux académiques qui étaient mal payés par le roi avec du retard. Mais je crois aussi que c'est la volonté d'un artiste qui veut échapper au carcan officiel. Alors, il veut peindre avec une grande rapidité, tout est peint très très vite, des sujets pris dans la vie de tous les jours, mais aussi des paysages, des scènes d'imagination. Donc il y a une extraordinaire variété de sujets qu'il aborde toujours avec la même liberté de pinceau et toujours avec la même liberté intellectuelle. Alors Fragonard lui-même était à peu près illettré. On pense qu'il ne savait pas écrire, à peine lire. Mais c'était un artiste qui était le contraire de bien des artistes français du XVIIIe siècle, qui était cultivé. Et il se rattrape, si vous voulez, en peignant ce que d'autres tentent de dire difficilement avec des mots. Je veux dire, des peintres qui veulent représenter des sujets compliqués. Lui, c'est le contraire d'un homme qui se complique la tâche par des inventions iconographiques complexes. Il se laisse aller à sa liberté, il se laisse aller à son imagination, il se laisse aller à son invention, et c'est là qu'il est à son aise. Alors, quand il est ensuite contraint par une commande, ou quand il est ensuite contraint par l'évolution d'un style nouveau auquel il est obligé de s'adapter, ça va moins bien. Alors, il faut l'admirer quand il est lui-même, c'est-à-dire quand il est libre et quand il se laisse aller à sa fantaisie, à son... Alors, l'homme lui-même n'était pas très sympathique. Mais et au fond, c'est pas le... Non, il n'était pas sympathique. C'était un homme capricieux, petit, mesquin. Mais ce n'est pas la première fois qu'un peintre ne ressemble pas du tout à ses œuvres. Il y a beaucoup de peintres.
C'est étonnant, oui, parce
que non, c'est souvent
j'ai
le cas.
Trouvé un portrait de lui dans votre livre, oui. Et il avait...
Il était tout petit,
Une bonne tête.
Non, il était tout petit, il était pas très sympathique. Mais c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est son œuvre, qui elle au contraire est extrêmement sympathique.
Joyeuse, comme on disait tout à l'heure. Oui.
Alors, vous savez, on sait peu de choses sur lui. On a beaucoup de renseignements sur lui lorsqu'il était au Louvre comme conservateur. On a très peu de renseignements sur sa vie personnelle, notamment on a inventé toutes sortes de romans pour en faire une sorte de Casanova de la peinture, et c'était pas du tout le cas. Il menait une vie très bourgeoise avec sa femme, ses deux enfants et sa belle-sœur, enfin la sœur de sa femme, Marguerite Gérard, une vie très bourgeoise, très petite bourgeoise même en un certain sens, mais ça n'empêchait pas par ailleurs d'exprimer pas son caractère mais ce qu'il aurait voulu être dans ses tableaux. Alors, comme vous le savez, il y a cette citation célèbre de son petit-fils, Théophile Fragonard, qui lui-même était un peintre assez médiocre, qui raconte que dans les salles des ventes, quand il y avait un tableau de Fragonard qui passait en vente, on disait « Jean-Honoré Fragonard » et la salle se levait en disant « Jean Honoré Fragonard ». Et je crois que c'était en effet un compliment qu'on voulait lui faire.
Oui, oui.
On sait beaucoup de choses sur Fragonard, mais il manque encore bien des choses, reste encore à découvrir. Il existe maintenant un catalogue raisonné de ses tableaux. Il n'existe pas de catalogue de ses dessins. Il a sans doute dessiné 3 ou 4 000 dessins. On est loin de les avoir tous repérés. Il y a eu des faux qu'on distingue très difficilement des originaux. Donc on sait peu de choses encore sur ses dessins et surtout sur l'évolution de sa manière de dessiner à travers les années de sa carrière. On sait très peu de choses sur sa biographie. Il y a des grandes disputes pour savoir si il a participé au tableau que Marguerite Gérard a peint pendant les années de la Révolution ou si au contraire il n'a fait que la surveiller d'un peu loin. Sur ses relations avec Marguerite Gérard, on ne sait pas grand-chose non plus. On manque de beaucoup d'informations.
Oui, c'est
et je veux dire que les jeunes...
certaines
oui, il y a bien de choses qui sont mystérieuses. Et je crois que pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art, pour les jeunes historiens d'art, Fragonard est un chapitre qui leur est parfaitement ouvert. Et il ne faut pas croire que tout se sait, que tout a été dit sur cet artiste, en effet, qui à mon avis, est l'artiste du bonheur.
Et vous-même, donc, je répète, vous avez déjà consacré une bonne cinquantaine de...
Non, j'avais fait, c'est ça mon travail majeur sur Fragonard, j'avais fait l'exposition Fragonard au Grand Palais et au Metropolitan Museum en 87-88, oui. Qui est ma contribution à Fragonard. C'est une étape dans la découverte ou dans l'étude de Fragonard. J'espère justement que les plus jeunes générations sauront perfectionner ce que j'avais tenté d'entreprendre et sauront surtout parfois prouver que je me suis trompé et pourraient me proposer des solutions qui seront plus convaincantes que celle que j'ai offerte au lecteur.
Le cas échéant.
Non, il faut être modeste.
Les attributions, vous êtes vraiment un spécialiste.
Non, mais il n'y a pas que les attributions.
C'est une question tellement délicate.
Ah, c'est délicat. Mais je veux dire, il n'y a pas que les attributions. Il y a la chronologie, il y a l'éventuelle participation d'un atelier, le problème des répétitions. Il y a toutes sortes de problèmes qui restent à étudier. Et heureusement, l'histoire de l'art n'est pas terminée.
Avis aux amateurs.
Avis
il
aux
reste
amateurs.
Le catalogue raisonné à créer des dessins de Fragonard, par exemple. Oui. En revoyant Fragonard au Louvre, puisqu'on habite Paris et malheureusement pas actuellement Besançon, il est question donc bien sûr du peintre de l'inachevé, on a déjà évoqué ce terme tout à l'heure, mais il était question aussi de fer porcelainé. Pourriez-vous peut-être nous expliquer ce terme,
monsieur
le président directeur du musée du Louvre?
Oui, vous faites bien de dire ça, parce qu'il va y avoir deux événements fragonardiens dans les prochains temps. Une exposition Fragonard au musée Jacquemart-André, je crois, pour cet automne. Et puis d'autre part, à Ajaccio, une exposition consacrée à l'élève de Fragonard, Marguerite Gérard. Marguerite Gérard est le peintre du porcelainé, c'est-à-dire des tableaux très achevés, peints à la manière des Hollandais du XVIIe siècle, où la soie est représentée avec une véracité, une vérité stupéfiante. Donc, vous voyez, les choses avancent sur Fragonard. Et Fragonard lui-même a évolué vers un art plus retenu, plus achevé, où justement tout est peint. Et moi, personnellement, je ne crois pas qu'il soit allé, à quelques exceptions près, jusqu'à faire des tableaux à la hollandaise. Je crois qu'il les a laissés à Marguerite Gérard. Lui-même, bien sûr, s'est assagi avec les années. Il est devenu plus allégorique. Il a moins peint l'instant même, l'instant désiré, comme s'appelle un de ses tableaux. Il s'est un petit peu assagi, si on veut, vers l'allégorie. Le verrou est un tableau allégorique. C'est à la fois un homme qui entraîne une jeune femme vers un lit et il pousse le verrou. Elle résiste tout en s'abandonnant. Il y a une ambiguïté volontairement entretenue par Fragonard, naturellement. C'est un tableau absolument extraordinaire, absolument bouleversant, que le Louvre d'ailleurs a acheté il n'y a pas si longtemps que ça, de mon temps bien sûr.
Merci.
Mais là c'est déjà le Fragonard un peu assagi, c'est pas le Fragonard des baigneuses. Car il y a en effet chez lui cette extraordinaire évolution qui est aussi quelque chose qui le place parmi les peintres, les grands peintres, ceux qui ne se contentent pas d'une formule qu'il répète durant toute une carrière.
Oui. Alors nous arrivons malheureusement à la fin de notre entretien et je voudrais lire une phrase. Il y a beaucoup, beaucoup de belles phrases qui parlent donc de Jean-Honoré Fragonard dans ce livre, bien sûr. Mais j'en ai sorti une comme ça, qui parlait des fameuses sanguines du jardin de Tivoli que vous avez évoqué tout à l'heure. Jardin qui a été créé par Hippolyte d'Este. Bon, c'est encore une autre histoire, on ne va pas parler d'Hippolyte d'Este, mais enfin, il s'est laissé aller à toute sa grande fantaisie pour créer un magnifique jardin que beaucoup d'artistes ont eu le plaisir de voir et même, je crois, d'y habiter temporairement. Donc, je cite Pierre Rosenberg. « Les sanguines de Besançon sont des œuvres d'art à part entière. Au-delà de l'observation attentive du feuillage des arbres, du scintillement de la lumière, du clapotement des eaux, du bruissement du vent, de la chaleur étouffante de l'air, il y a cet hymne à la végétation, une végétation généreuse, exubérante, envahissante. La nature, chère à Fragonard, ne veut pas inquiéter. Elle enchante, elle promet et permet l'évasion. » Écoutez, Pierre Rosenberg, un grand merci pour votre visite à Canal Académie qui nous aura permis de mieux connaître et encore mieux apprécier ce virtuose de la lumière que fut Jean-Honoré Fragonard. Et je rappelle le titre du dernier ouvrage que vous lui avez consacré, « Les Fragonards de Besançon » par Pierre Rosenberg. Ce document est également le catalogue raisonné des œuvres visibles à Besançon. Il est enrichi de multiples reproductions de peintures en couleurs. édité par 5 continents et le Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon en décembre 2006. Ce livre d'art est disponible dans toutes les librairies spécialisées et notamment dans les librairies des musées de France. Vous trouverez bien sûr toutes références utiles sur notre site internet. Merci à nouveau Pierre Rosenberg et à bientôt à Carrefour des Arts sur Canal Académie.
Merci beaucoup.